Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Agnès Michel, associé chez Ixos Formation. Léonidas Kalogeropoulos, PDG de Médiation et Arguments, délégué général de l'Open Internet Project et fondateur des Entrepreneurs pour la République. Denis Père, le président de Nature and People First, il a publié le contrat mondial pour que l'humain et la nature soient enfin au cœur de la mondialisation. Mes propositions pour préserver nos classes populaires et notre souveraineté chez First Edition. Alors j'ai un auditeur, je ne sais pas toutes sortes de ces chiffres, Denis. Il s'appelle Stanislas. Il me parle des taux de risque de pauvreté. Alors taux de risque de pauvreté, j'ai pas tellement l'habitude de voir cette notion. En me mettant Allemagne, Espagne, France, et donc c'est en Espagne où le taux de risque de pauvreté, m'écrit cet auditeur, est le plus faible, partant du principe qu'il y a, des modèles sociaux plus ou moins accueillants et plus ou moins cléments en fonction des pays, et qu'on est plutôt bien traité ici.
Oui, c'est ça. Enfin, on est bien traité un peu partout en Europe. Après, il y a des différences d'un pays à l'autre, mais qui sont mineures.
Le taux de risque de pauvreté.
Avec des modèles sociaux qui coûtent beaucoup moins cher.
La course aux économies de dépenses, mais là, moi, je vois surtout des choses qui vont impacter forcément des gens qui seront derrière les décisions politiques potentiellement prises. Donc, bon, il y a la volonté de durcir les règles de l'assurance chômage, Bruno Le Maire le répète, Madame Vautrin aussi, dans les colonnes du JDD, la ministre du Travail le répète aussi, en disant que les seniors, il ne faut pas les indemniser davantage, mais les faire travailler davantage, et que la solution sera dans le travail et pas dans l'indemnité. Ça sent à plein nez la réforme de l'assurance chômage, avec ses éléments préférentiels qui interviennent au-delà de 55 ans. Et puis sinon, il y a l'histoire de réformer toujours l'indemnisation des affections longue durée, qui est citée, le fait de moins rembourser les transports sanitaires en taxi, ça vous êtes au courant. Et Bruno Le Maire a dit qu'il compte bien continuer à taxer les rentes des producteurs d'énergie lorsqu'ils font des profits très importants, uniquement parce que les prix de marché augmentent. Et puis Yael Brand-Pivet propose un impôt exceptionnel sur les super-profits. Et puis Jean-Paul Mattei veut une flat tax sur les revenus du patrimoine. Et Marc Fesneau nous dit, attention, la question fiscale ne doit pas être tabou. Ça vous... vous vivez comment cette ambiance?
Non mais bon, on est dans un moment...
Le maire répète qu'il n'y aura pas de hausse d'impôts.
Ça ne m'a pas échappé et je trouve que le principe de dire que l'on ne va pas bouger les curseurs est un principe assez sain, sans compter que lorsqu'il y a des revenus qui augmentent, les taux s'appliquent et donc les impôts sont supposés rentrer davantage.
C'est pour ça
davantage.
Que d'ailleurs les prélèvements obligatoires sont restés à des niveaux équivalents alors que des baisses d'impôts sont bien intervenues, c'est parce qu'il y a eu des recettes qui ont
des
été...
Voilà. Et d'ailleurs, ça a montré que les courbes que l'on énonce, qui est qu'au-delà d'un certain niveau, le fait d'augmenter les taux fait baisser les revenus des impôts, est un principe qui fonctionne.
C'est les hauts taux, tu les totaux.
C'est joliment dit.
Oui, les hauts taux,
les hauts taux, tu les autos. En revanche, sur la situation globale de l'économie, plutôt que d'aller chercher des taxes nouvelles, je suis juste un tout petit peu étonné qu'on ait l'air de découvrir que les recettes sont moins importantes, que l'économie va mal, alors que depuis un an, on augmente les taux d'intérêt justement pour que l'économie aille moins bien. On a augmenté les taux d'intérêt parce que on a voulu juguler l'inflation qui n'avait pas véritablement de raisons traditionnelles, mais on a utilisé l'outil traditionnel, la hausse des taux d'intérêt, en disant que l'économie s'emballe, alors qu'elle était à peine à 1%, qu'il faut absolument resserrer l'activité. Donc on a resserré l'activité, donc on est en train d'assister à un ralentissement général de l'économie avec des recettes fiscales qui sont moindres. Enfin, je vois pas où est la surprise, je suis juste fasciné qu'on s'en étonne, et je ne vois surtout pas comment ce serait avec des hausses d'impôts que l'on va corriger un phénomène comme celui-là. Il faudrait mieux de faire revenir les taux d'intérêt à des niveaux plus raisonnables et ça devrait, en principe, faire repartir l'économie.
Alors, ce qui est tout à fait extraordinaire dans ces listes à la Prévert que je vous fais régulièrement, c'est que la plupart de ce que je cite, ça ne veut pas dire monter une taxe ou monter un impôt, ça s'appelle autrement. Ça s'appelle couper une niche fiscale, ça s'appelle baisser une dépense fiscale, ça porte plein de noms différents, mais à l'arrivée, c'est toujours des euros qui étaient dans une poche et qui n'y seront pas, ou qui n'y seront plus. Denis Père, je vous voyais...
Oui, je suis tout à fait en phase avec Léonidas. Dans le pays le plus fiscalisé au monde, enfin, ouvrir la boîte à idées de la créativité
fiscale...
Mais c'est fiscale,
pas de la fiscalité,
oui, voilà, c'est très subtilement présenté.
Même la sémantique toujours, est créative.
Voilà, même la sémantique est créative, effectivement, il vaut mieux. Parce
si,
que...
je crois, si, je, mais... si je rembourse moins les transports sanitaires en taxi, c'est pas de la fiscalité.
Oui, non, bien entendu. Alors, des économies de dépenses, oui, ça, on peut effectivement en trouver un certain nombre. Peut-être qu'effectivement, le remboursement des taxis, je sais pas, c'est un sujet qui est mal.
Dès qu'on a une idée d'économie de dépenses, vous avez un perdant.
Exactement, bien sûr, vous avez un perdant, bien sûr. Et après, on est peut-être...
On se dit, l'argent, mais il va dans ce genre de choses.
Non, mais que, comme le dit Léonidas très justement, il y a un phénomène assez mécanique qui est lié à la hausse des taux, effectivement, qui fait ralentir l'économie. Ça, c'est pas très surprenant. Et puis, il y a peut-être aussi une illustration de la courbe de l'affaire. Enfin, je veux dire, trop d'impôts tue l'impôt. Enfin, je veux dire, on est probablement en plein dedans aussi, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a d'ailleurs, depuis un certain nombre d'années, dit qu'on n'augmentait pas les impôts, mais en fait, on les augmentait quand même régulièrement. On est toujours champion du monde de la fiscalité.
On est champion du monde, mais on a baissé l'impôt sur les sociétés.
Voilà, on a baissé certains impôts qui étaient effectivement très pénalisants pour
l'économie. On n'a plus touché à la taxe sur les carburants.
Bien sûr, on a baissé les impôts de production.
Les impôts de production ont commencé à baisser, même si le rythme de la baisse a été un peu étalé dans le temps.
Voilà, mais c'était quand même une très bonne nouvelle. Donc ça, c'était des bonnes choses, mais on a quand même au global une pression fiscale qui reste la plus élevée au monde. Et donc, on a probablement au final une illustration de la courbe de l'affaire, effectivement, tout simplement, quoi, hein, où trop d'impôts tue l'impôt. Donc tout ça, effectivement, plaide en faveur de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire une remise à plat de l'efficacité de la dépense publique, est un chantier qui est lourd, effectivement, qui est incompatible avec le fait de rechercher dans l'urgence des économies.
C'est incompatible avec les avis d'agence du 26 avril, ça c'est certain.
Exactement, voilà, vous pouvez pas engager pas au passage, j'étais d'accord avec ce que disait madame tout à l'heure sur le poids des structures centrales dans les hôpitaux en particulier, et pas seulement, dans toutes les administrations.
C'est très frappant, ça. C'est le fameux mammouth de monsieur Claude Allègre.
C'est le fameux mammouth de Claude Allègre qui n'a pas bougé. Il y a une étude, effectivement, sur l'éducation nationale de 2012, hein, de Thomas More, j'ai déjà dû la citer dans cette émission, qui comparait le poids, effectivement, de la rémunération des enseignants en Allemagne et en France. En Allemagne, on est à plus de 80% pour le poids des enseignants et 17% à peu près pour le poids de l'administratif. En France, c'est pratiquement 50-50. Donc, on sait très bien, dans l'éducation nationale, c'est absolument phénoménal. Donc, on sait très bien que le modèle de management public français, c'est un modèle qui est très très lourd en systèmes centraux. C'est dû au fait qu'on a un modèle qui est extrêmement jacobin, qui est extrêmement centralisé, qui s'appuie très très peu sur la décision locale, sur l'autonomie locale, sur la subsidiarité, qui donne très peu d'autonomie de décision à qui que ce soit, que ce soit des chefs de service dans les hôpitaux, que ce soit des directeurs d'établissement dans l'éducation nationale. Et ce modèle, il coûte très très cher et il est très inefficace. Et donc, tant qu'on ne remet pas à plat ce mode de management, ce mode d'organisation, on aura des coûts qui seront structurellement beaucoup plus élevés. Mais ça se fait sur la durée. Ça ne se fait pas en 15 jours, effectivement, avant une annonce de dégradation de la dette française.
Agnès, sur la fiscalité.
Je suis d'accord avec vous. C'est effectivement le problème de la répartition des charges de l'État. Moi, je suis toujours un petit peu gênée quand on dit on va diminuer des dépenses qui concernent la santé de personnes. A priori, si quelqu'un a besoin d'un déplacement...
Sur les ALD notamment.
Oui, les ALD ou les déplacements en taxi pour des personnes hospitalisées, je trouve qui sortent de l'hôpital. Je trouve que d'un point de vue d'image de la société, de nous, ça dit quelque chose qui n'est pas forcément hyper, hyper constructif, alors que j'ai vu qu'il y avait une réflexion sur le CIR.
Le crédit d'impôt recherche,
qui depuis le début pose des problèmes dans sa conception, puisqu'il est beaucoup trop large, qu'il est souvent capté par des grands donneurs d'ordre au détriment des petites entreprises qui, pour qui il était conçu, et qui coûte finalement relativement cher. Je ne mentionnerai pas le CICE, alors là j'ai oublié le nom de...
Crédit d'impôt compétitivité emploi, qui a été basculé ensuite en baisse de cotisation. Ça doit être un 20 milliards par an. Pour l'on, c'est ici, on commence à approcher des 7 milliards. C'est la première niche fiscale de France avec la niche fiscale concernant les emplois à domicile.
Donc, aujourd'hui, et c'est effectivement, il y a une question autour de ces niches, même si effectivement ça veut dire reporter en augmentation globale du volume d'impôts, mais enfin c'est juste une remise à plat de pourquoi la décision a été prise quand on enlève une niche fiscale, on revient à la même norme pour tout le monde quelque part. Quand on fait par exemple sur les aides à domicile, je ne dis pas que ce soit celle-là qu'il faille attaquer en premier. Il se trouve que celle-ci, elle bénéficie à qui? Aux personnes qui payent des impôts. Moi, j'ai la chance d'en payer, mais un certain nombre de personnes n'en payent pas. Donc, il y a une inéquité qui est fondamentale sur cette exonération. Or, même les plus pauvres ont besoin d'aide à domicile.
C'est un crédit d'impôt, hein, l'aide à domicile. C'est pas uniquement une ristourne d'impôt, ça marche aussi sous forme de crédit d'impôt. Alors,
autant pour moi.
Le système de versement anticipé qui a été mis en place de manière à ce qu'il n'y ait pas le décalage d'un an.
Ces aides à domicile, ce qui serait idéal en fait, c'est, étant donné que ce sont les départements qui gèrent toute la solidarité, à qui on a enlevé un certain nombre de revenus d'ailleurs, avec même s'ils avaient une toute petite petite partie de la taxe d'habitation. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faudrait revaloriser les budgets des départements ou d'une instance décentralisée, quelle qu'elle soit, mais vraiment décentralisée, pour qu'il y ait une vraie autonomie de décision là-dessus. On ne se retrouverait pas à devoir créer ces niches, puisqu'il y aurait un vrai système qui
alors, fonctionnerait. Alors, pour ces niches, juste, ils ont quand même réussi à quasiment faire disparaître le travail au noir. Enfin, faire disparaître, peut-être pas encore, mais...
Sur le travail à domicile, ça a été essentiel.
Ça a été essentiel. C'est absolument radical. Et l'intérêt, c'est que lorsque vous avez du travail au noir, vous avez des gens qui n'ont pas de droits, qui n'ont pas de protection, qui ne versent pas de cotisations. Donc, le bilan économique pour la collectivité de cette dépense, ce crédit d'impôt, c'est que quand même, avec ce que versent en cotisation ceux qui travaillent et qui sont déclarés, non seulement ils ont des droits, mais ça rapporte plus que la dépense. Donc c'est un...
Bien sûr, mais par contre, on est sur des associations en général qui fonctionnent par délégation de services publics, dont les budgets sont assez restreints, départements, ARS, selon les sujets, etc. Et c'est vrai que là-dessus, s'il y avait plus d'autonomie aujourd'hui, de toutes les façons, c'est reculer pour mieux sauter, puisque avec le vieillissement de la population, c'est des budgets qui vont augmenter. Donc, ne pas vouloir traiter le sujet dans son intégralité, ce qui reboucle avec l'efficacité de la dépense publique, c'est se tromper. Et ce ne sont pas effectivement toujours individualisés, avoir des démarches d'individualisation avec ces crédits d'impôt ou ces exonérations qui va résoudre fondamentalement le sujet.
On avance. Chaque fois qu'on a voulu toucher aux niches fiscale et au crédit d'impôt lié à l'emploi à domicile pour les réduire, et notamment Christian Eckert avait fait ça sous François Hollande. Alors là, vous avez, dès que vous baissez le système, vous avez le travail au noir qui repart en flèche. Alors c'est en 15 jours.
Mécanique.
En 15 jours, c'est fait. Il y a un auditeur qui s'appelle Lionel, il trouve scandaleux qu'on s'attaque aux cancéreux. Parce qu'il pense au fait qu'on va peut-être réduire les indemnités qui sont versées aux gens souffrant d'affections de longue durée, qui ça représente plus de la moitié de la dépense de santé en France. Dans quel camp êtes-vous, Denis Paire, au sujet du libre-échange ? Les sénateurs, dans un geste très politique, ont voté contre CETA. Vous allez faire un sondage dans la rue, les gens vont vous dire qu'il faut se protéger. C'est produit dans des conditions environnementales dramatiques, quelquefois des conditions sociales dramatiques, et qu'on a raison de se protéger et de dire non au libre-échange.
Alors moi, je dénonce effectivement des différentiels de normes sociales et environnementales très conséquentes entre des pays émergents et des pays développés. Nous, on a 150 ans d'histoire sociale, 50 ans d'histoire environnementale. La plupart des pays émergents ont très peu d'histoire sociale et environnementale, ont très peu d'ailleurs de possibilités de la faire évoluer, puisque c'est souvent des régimes très autoritaires, voire totalitaires. Et donc, il n'y a pas de débat public, hein, parce que finalement, l'émergence de ces normes, c'est le résultat du débat public et de la démocratie. Donc, quand un pays n'est pas une démocratie, il a souvent très peu de normes sociales et environnementales. Ce qu'a la Chine, par exemple, aujourd'hui. En général, effectivement, ça concerne effectivement les pays émergents et les pays autoritaires versus les démocraties libérales. Là, on a un contre-exemple, effectivement, avec le Canada et le CETA, où on a effectivement, semble-t-il, en matière de viande bovine, un vrai débat sur des normes environnementales qui ne sont pas tout à fait les mêmes que les nôtres. Alors, quel est l'écart exactement entre leurs normes et les nôtres ? Quel est l'écart de coût de production, surtout, parce que c'est ça, moi, que je dénonce au final, parce que c'est comme ça que ça se traduit. C'est-à-dire que moins vous avez de normes sociales, moins vous avez de normes environnementales, plus le coût de production est bas et plus vous avez des risques de concurrence déloyale. Et donc, s'agissant du CETA, il y a peut-être un sujet, effectivement, sur la viande bovine.
Dorothée Bouzet, du Trésor, nous disait ici même vendredi que la viande bovine qui était produite dans des conditions sanitaires ne correspondant pas aux nôtres, donc avec notamment des antibiotiques, était une viande qui n'était pas inclue et autorisée dans le cadre des quotas CETA.
Oui, et c'est ça. Auquel cas, le problème est réglé.
C'est
là où il y a du
non. Il y a une forme de porosité avec le Mercosur. On a eu le Mercosur, c'était dramatique. Donc ça a inscrit l'idée que, de toute façon, dès qu'il y avait le mot libre-échange et accord de libre-échange, tout était dramatique et à jeter à la poubelle. Sauf que CETA, il fonctionne sur le terrain commercial depuis 2017.
Exactement.
Donc on a du recul, on sait ce qu'il donne.
Donc il n'y a pas de sujet. Le libre-échange est fondamentalement une très très bonne chose qu'il faut encourager entre pays similaires, entre pays qui se ressemblent. Il faut éviter la surréaction. Autant il y a un vrai sujet avec la Chine sur la fabrication, par exemple, des batteries au lithium, dont le New York Times a montré récemment que les ouvriers forcés ouïghours étaient impliqués dans la fabrication des batteries au lithium. Vous avez aussi des problèmes, effectivement, de non-respect de normes environnementales, avec des mines de lithium qui sont extrêmement polluantes, qui tuent des poissons, etc., dans les rivières à proximité. Donc il y a des vrais sujets avec la Chine sur ces sujets-là.
Donc il faut choisir ses combats.
Et en plus sur des industries qu'on peut considérer comme stratégiques. Je pense qu'à un moment donné, il faut aussi faire des choix. Je pense même d'ailleurs que ce que j'ai écrit dans ce que j'ai décrit dans mon livre, c'est qu'à un moment donné, ces différentiels de normes sociales et environnementales, ça peut même être un facteur pour aider des pays à émerger. C'est-à-dire qu'on peut aider des pays émergents comme le Bangladesh, par exemple, qui est très important en matière de textile, production textile, à émerger en exigeant petit à petit une montée en puissance de ces normes sociales qui sont déplorables, en se rapprochant des nôtres, en donnant des incitations, etc. Donc, il ne faut pas non plus fermer complètement la porte. Il faut essayer de s'en servir pour essayer de faire.
Il faut regarder au cas par cas.
Il faut regarder au cas par cas. Il faut pas.
Je fais réagir Agnès. Elle réagit toujours en troisième, la pauvre.
C'est pas
facile d'être numéro 3.
C'est dur. Je vais prendre ça pour du sexisme, voyons.
Ouais, voilà. Surtout pas. Non, parce que c'est pas facile d'arriver en troisième, forcément, dans une discussion.
Non, mais là-dessus, moi, j'entends le différentiel entre le type de partenaire commercial au niveau international. Il y a quand même quelque chose qui me chagrine un peu, parce qu'on a vu avec toute la période sur les agriculteurs, le vote du Sénat est le résultat de cette
période-là. Ambiance de rejet. Globale de rejet.
Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que quand le ministre de la Culture, de l'Agriculture,
pas Marc Fesneau,
et le président se penchent sur les questions agricoles, ils sont focalisés sur la balance commerciale. Et c'est vrai que ça imprime énormément la façon dont l'État français considère l'agriculture française. Donc la question que pose...
Troisième excédent commercial.
Oui. Sur, les céréales et le vin.
Mais pas surtout.
Voilà.
Oui, on est d'accord. Les éleveurs, c'est les parents pauvres.
Voilà. Et regardez comme la PAC favorise les très grosses exploitations céréalières et viticoles.
Absolument.
Qui sont par ailleurs souvent les plus grosses consommatrices d'intrants chimiques divers et variés. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'y touche pas tellement à ces intrants. Pas assez en tout cas. Et le fait est que quand on a cette vision biaisée de l'agriculture, ça se fait au détriment d'une agriculture vivrière. Et je pense que la réaction vis-à-vis du CETA est une réaction qui arrive dans cette séquence-là, où finalement il y a une interrogation sur la production locale et vivrière. Et moi je pose la question plus loin, c'est la pertinence que des produits périssables traversent la terre, quand au lieu d'aider les agriculteurs vivriers, parce qu'on ne vit pas de céréales et de vin, hein, voilà. C'est le pain et le vin, c'est bien en slogan, mais ça ne suffit pas à vivre sainement, sinon ça fera beaucoup plus de maladies longue durée. Il faut développer cette agriculture vivrière. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut concevoir et la façon d'aborder les accords internationaux, c'est de quoi on a besoin localement. C'est pas du patriotisme, du chauvinisme, c'est de quoi on a besoin pour se nourrir localement, parce qu'effectivement, une tomate, déjà, c'est pas encore la saison et ça fait pas 10 000 km sans dommage.
C'est clair.
En tout cas, c'est pas la peine de rejeter le libre-échange de manière systématique, en bloc. C'est un peu l'ambiance, et elle a raison, Agnès, à la suite de la colère agricole.
Ça mériterait un débat plus large sur le libre-échange, l'avantage comparé pour les différentes catégories de population du libre-échange et du libéralisme, mais je ne pense pas que ce soit le sujet.
Bon.
Ouais. Ce soit le lieu, en tout cas. Même si ce serait fascinant de débattre de l'intérêt pour le plus grand nombre d'un modèle économique vis-à-vis d'un autre. Voilà.
Vous vouliez réagir à ça, Léonidas
Kalogeropoulos? Non, mais c'est sur le libéralisme que je reviens, parce que de la même manière qu'il ne faut certainement pas jeter le libéralisme et le libre-échange à cause d'une analyse qui est nécessaire, avec discernement. Et d'ailleurs, juste le rappeler, pourquoi est-ce que c'est sain d'avoir des frontières ouvertes lorsqu'il y a une concurrence dans des conditions équivalentes et loyales? C'est que ça stimule le progrès et l'efficacité. Mais ça stimule le progrès et l'efficacité si on est effectivement dans des conditions loyales et équivalentes, que ce soit en matière de numérique, de voitures au lithium, enfin à batterie électrique, ou sur les conditions de l'élevage des animaux. Et effectivement, si on est dans des conditions équitables, à la fois socialement et d'un point de vue environnemental, eh bien, c'est très bien que cette ouverture existe. Si, en revanche, on est sur du dumping social et environnemental, tout ce que l'on a réussi à faire avec le libre-échange, c'est à couler la production locale et à détruire notre modèle social. Donc, c'est là où il faut véritablement le faire avec le gouvernement.
Le curseur est difficile à poser. Alors, franchement, le curseur.
Oui, j'entends ce que vous dites. Que la caricature, dans un sens ou dans l'autre.
Je suis sensible aux deux analyses, mais je trouve que le curseur est bien difficile.
Et très difficile, vous avez raison.
Quand vous faites un accord de libre-échange, le principe, c'est de mettre des quotas sur différents produits qui. Sur ces quotas-là auront des droits de douane préférentiels. Et vous êtes obligé de faire quelque chose où la partie d'en face il retrouve aussi quelque chose. Donc il y a forcément des gagnants des deux côtés, mais il y a aussi des perdants des deux côtés, et c'est toujours pareil. Faut-il assumer les perdants?
Bon. Faut-il faire du libre-échange sur tous les produits?
C'est ça. Et à un moment donné, il faut privilégier peut-être certaines industries stratégiques, peut-être des produits alimentaires, effectivement, dont on estime qu'il faut continuer à les maîtriser chez nous, effectivement, et peut-être des taxes carbone renforcées pour les tomates kenyanes et les haricots kenyans. Le sujet, c'est ça. Effectivement, de toute façon, c'est des sujets qui sont effectivement très complexes, et dans le débat politique est rapidement caricatural.
Ah ben, ils sont traités avec l'évidence.
De façon extrêmement binaire. Or, c'est des sujets extrêmement complexes. Et je pense qu'il faut à un moment donné dire, voilà, il y a quelques industries, quelques activités agricoles qu'on veut conserver chez nous pour tout un tas de bonnes raisons, qu'on estime stratégiques. Par exemple, le véhicule électrique au lithium. Au passage, c'est au cœur de la campagne présidentielle actuelle. J'arrive des États-Unis, j'ai passé une quinzaine de jours là-bas, là, je suis arrivé vendredi. Il y a eu tout un débat parce que Trump avait dit que it's going to be a bloodbath s'il n'est pas réélu. Et en fait, il parlait effectivement d'un bloodbath, d'un bain de sang dû au fait que les fabricants chinois d'automobiles s'installent maintenant au Mexique pour fabriquer des véhicules électriques au Mexique et les importer effectivement grâce à l'ALENA, grâce au NAFTA, sans droit de douane aux États-Unis. Il dit ça, c'est inacceptable, et donc je taxerai fortement à 100% les véhicules chinois fabriqués au Mexique. Donc c'est complètement, je dis pas qu'il a raison, mais à un moment donné, c'est, je suis pas trumpiste du tout, hein, ne nous trompons pas, mais il pose le problème. C'est le problème. C'est quelles sont les activités qu'on souhaite conserver où on estime que on ne tolère le choc social environnemental.
Il faudra expliquer à la population que si on décide de surtaxer des produits qui ne répondent pas aux normes,
ça coûtera plus cher.
Mais il faut l'assumer. L'idée du libre-échange, c'est de stimuler une concurrence saine. Ce n'est pas d'avoir une concurrence qui tue le match. Je veux dire par là que s'il s'agit d'autoriser le dumping parce que les voitures chinoises sont fabriquées dans des conditions environnementales qui sont déplorables, effectivement, avec du travail forcé et de surcroît subventionné par des taxes et des subventions de l'État chinois, c'est juste du dumping. Donc, effectivement, on n'aura pas d'industrie européenne de voitures électriques. Et il y a un moment donné où ces voitures qui auront été peu chères et qui auront totalement démoli toute capacité de production européenne, eh bien, remonteront leur prix, comme dans tout phénomène de dumping. Donc, c'est juste une illusion de courte durée. Et l'idée de mettre le consommateur à l'épicentre de tout, plutôt que l'entrepreneur qui est celui qui donne de l'emploi et qui fait que le consommateur vide son travail, me semble être une erreur du libéralisme.
Et on parlera de qualité et de questions
plus que santé le consommateur.
Aussi de ce qu'on consomme. Il parce que s'empoisonner en consommant, c'est pas forcément un idéal.
Il profite de l'absence de Jean-Marc Daniel, Leonidas Kalogeropoulos.
Mais je l'accueillerai volontiers avec beaucoup d'amitié.
Non, et puis Nicolas, on créera des emplois pour les classes populaires. Enfin, il faut bien voir qu'aujourd'hui, on a une rébellion des classes populaires dans tous les pays développés. Aux États-Unis, elle s'est traduite par le vote Trump en 2016. Elle risque de se retraduire à nouveau par le vote Trump. Hein, toute la Rust Belt du centre des États-Unis qui a été totalement désindustrialisée. Il y a même des économistes qui ont montré que les counties, les régions où on votait le plus Trump, c'était les régions qui avaient été le plus touchées par les délocalisations vers la Chine. Hein, il y a une corrélation très très directe. Il y a un économiste du MIT qui l'a démontré très très clairement. Et on a le même phénomène chez nous. Le vote populiste en France, il est très... Alors maintenant, il est très large, mais il était au départ très corrélé avec les régions industrielles.
Quand vous preniez les zones de chômage en France, la carte électorale, c'était assez impressionnant de voir le nord et l'est. Lien qu'il y avait entre eux.
Oui, les régions industrielles étaient le plus touchées, le nord et l'est de la France. Et ça a été refait dans tous les pays. En Angleterre, c'est pareil. Le Brexit, il y a des économistes anglais qui ont fait les mêmes analyses. Donc le libre-échange version 2001, entrée de la Chine dans l'OMC, le libre-échange tous azimuts, sans prise en compte des normes sociales et environnementales, ça a provoqué. provoqué ça. Ça a provoqué une rébellion des classes populaires dans les pays développés. Donc attention quand même aux conséquences. Donc on a un modèle. Les partis de gauche dans tous les pays développés se sont mis à laisser tomber les classes populaires en se disant de toute façon les ouvriers vont disparaître. Les Français l'ont fait. Français l'a fait.
C'est le grand virage du PS en 2001.
Oui, mais pardon.
C'est Ranova qui leur avait conseillé.
Et le Parti démocrate américain l'a fait aussi. Le Parti travailliste anglais l'a fait aussi. Ils ont tous laissé tomber les classes populaires.
C'était une alliance invraisemblable entre certains libéraux et effectivement une gauche qui dit de toute façon.
La France des années 70 se voyait comme un pays de col blanc et plus un pays de col bleu.
Et ça, encore une fois,
notre haute administration, nos grands corps.
Oui.
Et ça se fait au détriment, effectivement, de gens qui souhaitent travailler dans de bonnes conditions.
Donc ça suppose de rouvrir ce débat qui est complexe, effectivement, et de faire des choix entre qu'est-ce qu'on veut garder, qu'est-ce qu'on veut pas garder, et où est-ce qu'on veut un vrai libre-échange, effectivement. Le libre-échange ne fonctionne bien qu'entre pays qui se ressemblent et qui ont des normes, où les règles du jeu sont à peu près les mêmes. Quand c'est pas les mêmes pour tout le monde, ça fonctionne pas.
Sur pas mal de produits, ça va nous mettre dans une position délicate.
Non, mais c'est pour ça qu'il faut faire des choix, Nicolas.
Est-ce qu'on vivra moins bien?
Je suis quand même d'accord sur l'idée que on a eu une forme d'aveuglement collectif à la fin des années 90, avec cette idée que la France était un pays de service, que les usines ne servaient à rien.
C'est ça.
Et que,
Mais
je suis suffisamment en désaccord avec le fameux Jean-Marc Daniel là-dessus.
Il faut qu'on ait ce débat avec lui.
C'était une opinion mondiale.
C'était
la doxa américaine à la base, qui a été reprise sans beaucoup d'esprit critique par les Européens.
C'était pas. En l'occurrence, mettre l'entrepreneur plutôt que le consommateur à l'épicentre de le raisonnement économique, ça permet d'éviter ce genre de sottises. Je maintiens que la démocratie
dans l'économie, c'est pas mal aussi.
Oui. On a fini. Désolé, on ne peut pas aller plus loin.
Bien sûr.
Sur les autres sujets que j'avais pu proposer aujourd'hui.
Vous l'aurez dit.
La répétition, c'est
le socle de la pédagogie.
Merci Agnès, Michel d'avoir été là. Léonidas Kalogiropoulos et Denis Père. J'ai eu pas mal de réactions essayant de comparer, de trouver des éléments de comparaison entre le prix du travail en France et le prix du travail dans les autres pays. Chacun a un peu sa lecture, c'est d'ailleurs assez marrant. Bon, j'ai pas le temps de vous donner le détail. On se retrouve demain à 9h.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.